Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Troisième puissance agricole européenne, l'Italie prend depuis quelques années dans ce secteur un sérieux coup de jeune. Le nombre d'exploitants de moins de 35 ans a augmenté de 35% et il pourrait même doubler d'ici 2020. Cette génération, souvent citadine et surdiplômée, emploie deux fois plus de salariés que ses confrères plus âgés. En Calabre, une région dont l'agriculture a été délaissée par les aînés, ce sont les jeunes qui reprennent souvent le flambeau et se lancent dans le bio et l'exportation. Reportage dans le village de San Floro, en Calabre, de Frédéric Lebel.
C'est sur la place du village San Floro que Stefano Cacavari nous a donné rendez-vous. Après des études d'informatique, c'est ici que le jeune trentenaire a choisi de construire son avenir.
Ma famille vit ici à San Floro depuis 300 ans. On a toujours pris soin de ce territoire et moi je suis revenu ici justement pour ça. On est responsable de son territoire. Il y a 4 ans, j'étais ici au bar avec un ami et il m'a demandé « qu'est-ce que tu veux faire pour défendre ta terre ?» Cette question m'a interpellé et a changé ma vie. C'est ce qui m'a donné envie de revenir ici et de créer mon entreprise.
L'entreprise de Stefano, c'est un moulin et des farines qui s'exportent, une boulangerie et une pizzeria qui fonctionnent sur un réseau de 20 agriculteurs locaux. Curieux retournement de l'histoire, les parents de Stefano avaient délaissé le travail de la terre. Il y a eu un saut de génération.
À
quelques minutes à pied, Stefano veut nous présenter sa grand-mère, Concetta, 85 ans. Ce sont ses terres abandonnées qu'il a récupérées. La Calabre est une terre vidée par l'exode rural. Erika Lopez est responsable des jeunes pour le principal syndicat agricole, Coldiretti.
En fait, il n'y a que 20% des terres qui sont cultivées ici. Ça vient du fait que les agriculteurs n'utilisent pas assez les aides européennes à l'agriculture. Et pourtant, le potentiel ici est absolument énorme. Même les ressources hydriques sont très importantes ici. On pourrait vraiment développer l'agriculture et exporter notre propre production.
Le retour à la terre se fait aujourd'hui avec des jeunes qui misent beaucoup sur le bio et les codes de l'entreprise.
Notre marque s'appelle Molinum et on a un grain dur qui date de 1915 et qui s'appelle Senatore Capelli. Et le grain tendre date de 1950 et il s'appelle Derna. L'industrie veut tout standardiser, mais nous, on veut vraiment donner un nom à chaque variété. Et avec cette pierre à meule en quartz qu'on a importée de France, on garantit l'unique façon de conserver les qualités du grain, ses minéraux, ses vitamines et ses fibres. C'est antique, traditionnel et non industriel. C'est la seule manière d'avoir un produit bon à manger. Et en plus, le grain qu'on utilise pour le pain a peu de gluten.
Pour faire du pain à l'ancienne, Stefano a utilisé les procédés de la start-up. C'est grâce au crowdfunding sur Internet qu'il a levé les fonds, 500 000 euros. En un an, il a déjà embauché 7 personnes. La grande bâtisse neuve abrite un moulin à l'ancienne, isolé derrière une grande paroi de verre. Traçabilité maximum pour les clients de la pizzeria. La meule est une pierre traditionnelle française de la Ferté-sous-Jouarre qui s'aiguise au marteau. Francesco et Meunier, 100 kilos de farine à l'heure, une productivité 10 fois plus faible que pour les moulins industriels, c'est le prix de la tradition.
Moi, je faisais la pizza à la maison, comme ma mère, mais il a fallu que j'apprenne le métier de meunier pendant un an, et j'adore ça. Il y a encore des vieux meuniers dans le village, dans la région, et c'est auprès de l'un d'eux que j'ai tout appris. Ici, on comprend, avec les différents types de grains, que ce qui est important, c'est la texture finale de la farine. C'est tout un apprentissage qui se fait simplement en la touchant.
Dehors, les tracteurs s'activent. Stefano veut construire une terrasse pour son restaurant. Un peu plus loin, ce sont les champs de blé et son potager qui fédère une centaine de familles de la région. Là encore, la force des réseaux sociaux. Erika Lopez rêve d'une moisson d'agriculteurs calabrais qui exporterait, comme Stefano, leur production régionale.
Évidemment, il y a l'huile d'olive et à côté, on essaie de promouvoir la ndouya, qui est une charcuterie épicée typique de Calabre qu'on exporte de plus en plus et qui est maintenant demandée à l'étranger. Il y a aussi des fromages, c'est en train de se développer, les tomates séchées aussi et les champignons séchés. Et la patate sicilienne qui bénéficie d'un indice géographique protégé. Mais il y a surtout l'huile d'olive.
L'enjeu est d'importance. L'agriculture reste la première source de revenus en Calabre.
Comment s'occuper d'enfants handicapés en Bulgarie ? Les parents démunis manifestent depuis des semaines. Ils réclament une réforme des aides, mais se retrouvent empêtrés dans les polémiques et les tensions politiques. Les explications depuis Sofia Damian Voninicharov.
Cela fait des mois que les parents d'enfants handicapés sortent dans la rue. Les manifestations se sont multipliées depuis le début de l'année pour se transformer en campement permanent devant le Parlement en juin. Le système nous tue, peut-on lire sur les pancartes et les t-shirts des participants, alors que des squelettes en chaise roulante illustrent littéralement le slogan. Les parents d'enfants handicapés demandent une réforme du système d'aide, à commencer par des allocations plus ciblées et plus personnalisées, puisque chaque enfant handicapé est un cas particulier. Des allocations plus conséquentes aussi. Actuellement, certaines familles n'ont droit qu'à une centaine d'euros mensuels. Enfin, des procédures simplifiées pour les assistants personnels, réservées aux enfants souffrant de handicap grave. Ces demandes justifiées ont d'abord suscité des réactions de compassion, mais plus les manifestations s'allongeaient dans le temps, plus les parents se sont trouvés isolés, au point de se retrouver seuls, ou presque, contre tous, et entraînés malgré eux dans des machinations politiques. D'abord, le ministre des Affaires Sociales, considéré comme un partenaire correct par les manifestants eux-mêmes, a démissionné en pleine crise pour être reconduit à son poste le lendemain. Le Premier ministre Boyko Borisov, qui disait pleurer en apprenant le sort des familles d'enfants handicapés, a perdu son sang-froid, souhaitant désormais être laissé tranquille. Les partenaires sociaux ont renchéri. Les syndicats ont jugé les manifestations trop irrespectueuses du sort des enfants handicapés que leurs parents emmenaient avec eux dans la rue. Et pour couronner le tout, des luttes intestines entre les différentes organisations de personnes handicapées sont apparues lors du projet de loi. Celui-ci serait trop réducteur et ne répondrait qu'aux besoins des enfants handicapés et de leurs parents, et non pas à toutes les personnes handicapées en Bulgarie. Quant aux débats et aux polémiques politiciennes, ils sont toujours en cours.
Bonjour Ingrid Terwatt.
Bonjour Catherine.
Alors cette semaine, c'est avec vous que nous allons détailler les articles que Courrier International a sélectionnés dans la presse européenne. Et pour commencer Ingrid, que dit cette presse de la victoire française en demi-finale de la Coupe du Monde ?
Alors c'est toute la presse européenne et mondiale qui en parle. Mais je voudrais juste vous parler d'un article de nos voisins allemands. Il s'agit d'un article de Georg Blum dans le Spiegel, selon qui, je cite, « Les Français oublient leur peur du terrorisme grâce à cette victoire ». Tout ça juste avec du foot. Et d'après le Spiegel, le temps d'une soirée puis d'une nuit, il n'y aurait plus de problèmes en France, plus de racisme et tout irait bien. C'est assez plaisant comme idée, mais évidemment c'est une illusion.
On revient maintenant sur la une de Courrier International qui pose cette question très pessimiste et angoissante. L'Occident est-il fichu ? Est-ce que c'est un nouveau déclin, Ingrid Terwatt ?
Plus ou moins. C'est un phénomène qu'on observe depuis plusieurs années en tout cas et qui tourne complètement la page du XXe siècle et de l'ordre rétabli après la Seconde Guerre mondiale. C'est en tout cas ce que dit Carl Bildt, qui est l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères suédois, dans une tribune qui est publiée par Project Syndicate à Prague. Alors, selon Carl Bildt, l'Ouest est en pleine crise de conscience parce que l'hégémonie occidentale n'a jamais été aussi contestée. Il explique, je cite, « Ces dernières années, la communauté internationale est entrée dans une nouvelle phase. La politique de l'idéalisme et de l'espoir a été remplacée par celle de l'identité et de la peur. » Il serait donc plus que jamais vital de défendre les idées et les institutions qui ont garanti la stabilité internationale et qui nous permettraient aujourd'hui de faire face aux grands défis qui se présentent à nous, comme le changement climatique, les migrations internationales et les nouvelles technologies de l'information.
Mais comment Carl Bildt explique-t-il cela ? De qui est-ce la faute ?
Alors, selon lui, il y a deux responsables principaux. D'une part, les États-Unis de Trump et d'autre part, le Royaume-Uni du Brexit. Alors, pour lui, qui est un ancien diplomate, le Royaume-Uni sombre dans des querelles de clochers et le Brexit signe pour le pays la fin d'un rayonnement international qui avait déjà quand même été bien mis à mal par les décolonisations.
Et puis pour les États-Unis, eh bien, Carl Bildt accuse l'administration Trump de s'enfermer dans une rhétorique belliqueuse et d'affaiblir non seulement les institutions internationales, mais aussi l'Union européenne, qu'il traite avec mépris. Donc, finalement, pour lui, les grands gagnants de ce nouveau désordre mondial, ou si on veut, de ce nouvel ordre mondial, eh bien, ce sont les Chinois et les Russes. Et les perdants, l'Occident bien sûr, mais aussi, il ne faut pas les oublier, les pays non occidentaux, mais qui sont attachés à la démocratie.
Alors le déclin, c'est aussi ce qui guette la ville de Split en Croatie. Vous nous en dites un peu plus ?
Ben oui, c'est une lamentation assez déchirante du journaliste Boris Deluzovic dans l'hebdomadaire Novosisti à Zagreb. Ce journaliste croate a grandi à Split, c'est une cité antique et une ville magnifique sur les bords de l'Adriatique. Mais depuis quelque temps, l'engouement touristique pour ce petit paradis a complètement détruit Split. C'est même pire qu'un déclin. C'est une disparition, une genre de mort programmée qui est en train de se produire. Alors Boris Deluzovic raconte, je le cite, « Il n'y a plus d'enfants, plus d'habitants. La géographie de Split des années 70, celle de ma génération, n'existe plus. Elle est remplacée par une carte imaginaire digne des romans de Tolkien. La ville se vide de sa substance et s'installe sur les profils Instagram des touristes modernes. » Bref, il y a partout des hôtels branchés, des pubs, des services pour touristes. Le cinéma a fermé et même la mairie, figurez-vous, va déménager en banlieue. Et tout ça, ça se passe et c'est assez ironique. Pourquoi ? Pour répondre au désir d'authenticité des touristes.
Et oui, hein, et Split n'est pas la seule à faire face aux défis du tourisme. À Barcelone aussi, on réfléchit à la meilleure façon d'accueillir les voyageurs.
Oui, à Barcelone, cette semaine, on ne se lamente pas sur les touristes, contrairement à Split, mais sur le mauvais accueil qu'ils peuvent recevoir. Pas que les touristes d'ailleurs, hein, tout le monde. Ce mauvais accueil que tout le monde peut recevoir. Alors, dans cette ville, les VTC livrent une concurrence farouche aux taxis traditionnels qui se sont un petit peu laissés aller sur le plan vestimentaire. À vrai dire, c'est pas moi qui le dis, c'est le très sérieux quotidien La Vanguardia. Alors, la centrale des taxis barcelonais a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et de durcir le règlement. Fini les débardeurs, adios les shorts, bye bye les tongs. Jugé, je cite, non conforme aux normes sociales. Alors attention, hein, les contrevenants pourront écoper d'amendes allant de 60 à 250 euros quand même. L'idée est assez simple, hein, c'est de redorer le blason des taxis. Sauf que les VTC ne comptent pas se laisser faire et qu'il y a des entreprises qui rivalisent d'innovation. Par exemple, Taxi Écologique a embauché une équipe de parfumeurs, figurez-vous, pour élaborer sa propre identité olfactive. Ça va assez loin, mais maintenant vous êtes prévenus si vous allez passer vos vacances en Espagne.
Merci Ingrid Terwatt. Alors ce sont des articles évidemment Merci. À lire dans Courrier International. À très bientôt.
À bientôt Catherine Roland.
Du foot et du foot encore, alors que les supporters croates et français attendent avec impatience la finale du mondial ce dimanche en Russie. Les Italiens, qui n'ont pas pu se qualifier à la compétition, se consolent avec cette nouvelle. La star Cristiano Ronaldo va intégrer la Juventus de Turin pour la prochaine saison. Le coup du siècle, selon les médias sportifs italiens. Sauf que pour les ouvriers de Fiat, l'annonce est assez cynique, Cécile Debarge.
À l'annonce de son arrivée à la Juve, les fans se sont rués à la boutique officielle pour acheter son maillot siglé d'un énorme numéro 7. Un glacier de Turin a inventé une glace CR7, des initiales de Cristiano Ronaldo, saveur fiordilatée parfumée de ginja, une liqueur portugaise. Dans une pizzeria du centre-ville, les pizzaioli se sont amusés à dessiner un CR7 avec des olives noires sur les pizzas du jour et d'autres ont même inventé une pizza spéciale. Mais combien les bianconeri, les couleurs du club de Turin, ont-ils mis sur la table pour convaincre le quintuple ballon d'or de les rejoindre? C'est la question qui divise l'Italie et pas seulement du nord au sud. Les médias italiens parlent de 117 millions d'euros, plus un salaire de 30 millions d'euros annuels pendant 4 ans, plus éventuellement 30 millions d'euros pour une campagne de publicité pour la Fiat, le groupe automobile auquel appartient la Juventus de Turin. Des débats et des chiffres tout simplement indécents pour les ouvriers de l'usine Fiat de Melfi en Basilicate, dans le sud du pays qui ont commencé leur tract syndical par les mots suivants « Devant tant d'injustices, on ne peut que se mettre en grève ». L'Unione Sindacale di Base, le syndicat, a donc déposé un préavis pour débrayer pendant 48 heures de dimanche jusque mardi fin de journée et rappelle que depuis des années, l'entreprise a demandé aux ouvriers de se serrer la ceinture en leur promettant des jours meilleurs qui n'arrivent pas. Est-ce juste que des milliers de familles n'arrivent pas à tenir jusque la fin du mois alors qu'un seul homme gagne des centaines de millions d'euros, demandent les ouvriers. Une question qui ne semble pas gâcher la fête des amoureux de football qui se préparent déjà à venir nombreux à Turin pour la présentation de CR7 aux supporters de la Juve ce lundi.
I love this song, man. I love it.
From the top, you never said it. All right, all right, all right.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors, l'alliance de la chanteuse du groupe mystique Dead Can Dance et des voix bulgares, c'est ce que vous nous proposez aujourd'hui.
On les connaît sous le nom Le Mystère des Voix Bulgares depuis les années 80 et leur travail sous la direction de l'ethnomusicologue suisse Marcel Cellier. Mais cette fameuse chorale féminine bulgare existe depuis 1952 et a connu 1000 vies au fil des décennies et des générations de chanteuses qui s'y sont succédées. Régulièrement, cet ensemble dévolu au folk traditionnel fait des incartades du côté de la pop, notamment au gré de collaborations marquantes. On se souvient de celle avec Kate Bush en 1980. Et aujourd'hui, c'est avec la chanteuse australienne Lisa Gerrard du groupe Dead Can Dance que s'est associé le mystère des voix bulgares pour une collection de compositions originales sur le beau Nouchi Mich dont je vous propose un extrait.
Gerhard, c'est le mystère des voix bulgares. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. À la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur RFI.fr et sur notre page Facebook.